France Maghreb 2.
Bien le bonjour chez vous, merci d'être avec nous et en direct sur votre radio France Maghreb 2. C'est reparti pour une nouvelle semaine du LGF, le grand forum sur France Maghreb 2, tous les jours de 16h à 18h. Avec, pour ce lundi 9 mars, voici le sommaire. Au sommaire de ce grand forum pour ce lundi 9 mars, élection municipale, on entre dans le dur, c'est la dernière semaine. Deux invités aujourd'hui, tout d'abord Jean-Philippe Gautret, maire de Fontenay-sous-Bois, qui se représente donc dimanche prochain. The Shukran, c'est le premier réseau social né pour diffuser l'art, la culture, la beauté du monde arabe à travers le partage d'images et de vidéos. Une application qui désire faire connaître la beauté du monde musulman, une plateforme réalisée par des musulmans et ouverte au monde entier. Fatna El Omri est la fondatrice de cette application. Elle sera notre invitée tout à l'heure à 17h dans les rendez-vous d'Anna pour nous en parler. Soyez évidemment au rendez-vous. Troisième invité, élection municipale direction Gennevilliers pour recevoir le candidat Nasser Lajili, accessoirement chroniqueur dans le LGF. Il viendra présenter son programme et mettra sa casquette de candidat. C'est parti pour le LGF jusqu'à 18h. Je vous en souhaite la bienvenue. Nous sommes aujourd'hui le 9 mars. Bon anniversaire à tous ceux qui sont nés d'abord un 9 mars. En 1916, accord Sykes-Picot, les Anglais et les Français se partagent le Proche-Orient. En 1966, c'est la France qui se retire du commandement militaire de l'OTAN. Quelques anniversaires donc. En 1939, il est né, il s'appelle Jean-Pierre Chevènement, il est né dans le territoire de Belfort, homme politique français. C'est lui d'ailleurs qui avait dit « un ministre, ça démissionne ou ça ferme sa gueule ». En 1964, naissance de Juliette Binoche, comédienne française. Même année, c'est la naissance de Valérie Lemercier, actrice, comique, mais aussi réalisatrice. Et en 1968, dans le monde du football, c'est Youri Djorkaeff, joueur de football international. Bon anniversaire à lui. Voilà pour ce qu'il fallait retenir dans la date du 9 mars sur France Maghreb 2. Soyez les bienvenus encore une fois. Dans un instant, on prendra la direction de Fontenay-sous-Bois. J'aurai deux, trois petites choses à vous faire écouter. Tiens, notamment, Meyer Habib. Vous connaissez Meyer Habib, c'est le député des Français de l'étranger qui a fait une petite visite à François Pouponi du côté de Sarcelles. Il le soutient, il s'en explique dans une vidéo qu'il a postée hier soir. Et on écoutera aussi, à propos du coronavirus, donnera quelques informations, dont une information exclusive LGF qui est sortie ce matin. On continue donc de vous informer tout le temps, bien sûr, partout, sur les réseaux sociaux et en direct tous les jours de 16h à 18h sur France Maghreb 2. Soyez-en les bienvenus, c'est parti pour le Grand Forum. Le LGF avec notre premier invité dans un instant, Jean-Philippe Gautret, qui est le maire de Fontenay-sous-Bois, qui sera avec nous dans un instant pour présenter son programme aux électeurs, aux électrices de Fontenay-sous-Bois. Puisqu'on parle de municipal, il y a un sondage qui est sorti aujourd'hui même, dans lequel on s'aperçoit que 28% des Français envisagent de ne pas se rendre au bureau de vote par peur d'être contaminé au coronavirus dimanche prochain, donc le 15 mars, pour le premier tour de l'élection municipale. Est-ce que vous faites partie de ces gens-là? Bien, vous pouvez nous le dire hein, 01 40 33 9000. Puisqu'on parle du coronavirus, quelques informations à vous donner. D'abord, ce dernier bilan qui est tombé cet après-midi, 1191 contaminés dans surtout le territoire français, 21 morts, soit 2 de plus qu'hier. Et l'information exclusive LGF qui est tombée ce matin, c'est donc le directeur général de ADP, aéroport de Paris, qui est contaminé au coronavirus. Il est donc placé à l'isolement, en confinement pendant 2 semaines. Voilà pour l'information donnée. Quelques informations sinon, évidemment, que le match PSG Borussia Dortmund qui se jouera au Parc des Princes mercredi se fera sans les supporters puisqu'il se jouera à huis clos. Décision prise en fin de matinée. Voilà donc maintenant les matchs de foot sont menacés donc suite à ce coronavirus. Et puis une information également qui est tombée ce week-end, c'est le report du salon annuel du Bourget. Donc ce salon annuel organisé par Musulmans de France qui a lieu tous les ans au Parc des Expositions du Bourget, ce salon a été reporté à une date pour l'instant pas communiquée qui devait se dérouler le 12 avril prochain. Beaucoup d'événements donc sont annulés ou reportés, vous l'avez compris, et ça commence à faire beaucoup. Alors ce virus, évidemment, il inquiète, il pose beaucoup de questions à beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous également, et on reste évidemment au taquet hein, sur ces dernières informations. Tiens, une petite information aussi qui est tombée tout à l'heure, c'est une classe d'une école du 15e arrondissement de Paris qui a fermé. Puisqu'un enfant serait contaminé au coronavirus, donc ils ont fermé la classe et non pas l'école, sachant que beaucoup d'écoles de l'Oise et de Lorrain donc ont été fermées donc suite à ce plan blanc qui a été déclenché aussi pour la santé. Et on devrait passer à la phase 3 donc d'ici quelques jours semble-t-il, et d'après les dernières informations donc qui nous sont parvenues. Voilà pour ce que l'on pouvait dire en tout cas de ce virus et des dernières nouvelles autour de ce coronavirus qui mobilise beaucoup évidemment, sachant aussi qu'il y a des députés hein, qui sont touchés hein, comme quoi il n'y a pas de jaloux dans ce domaine. C'est les députés donc à l'Assemblée nationale, il y en a quelques-uns dont un en réanimation, également des agents de l'Assemblée nationale qui sont touchés donc par ce coronavirus. 16h27, avant d'accueillir notre premier invité, je voulais vous faire écouter Meyer Habib qui a posté une vidéo parce qu'il s'est rendu à Sarcelles soutenir le candidat François Pupponi. Alors pourquoi s'est-il rendu à Sarcelles? Pourquoi François Pupponi? Il s'en est expliqué dans cette vidéo que je vous propose d'écouter.
C'est la première fois que je mange chez Dinon, j'en entends parler depuis tellement longtemps. La raison de ma venue ce soir, elle est unique. C'est soutenir mon ami, je ne vais pas dire mon ami, je vais vous dire ce que j'ai au plus profond de moi-même, c'est mon frère François Pupponi. Il y a 577 députés à l'Assemblée, 576 sans moi. J'ai 574 amis, proches, très proches, et un frère, François. C'est pas des mots. Je l'ai vu dans toutes les circonstances. J'ai vu, vous connaissez mon attachement évidemment à la France parce que c'est ennemi, mais aussi mon attachement à l'État d'Israël, à la pérennité du peuple juif, à la lutte contre l'antisionisme, le nouvel antisémitisme. François a toujours été là, envers et contre tout, il était membre du PS, il a toujours été là, je ne peux pas ne pas être là. Et il a de la force, il a du talent, et il sait convaincre partout avec le style qui est le sien. Son style peut-être d'origine corse que j'aime tant, vous savez, les Corses, il n'y a pas eu un seul Français d'origine juive qui a été déporté pendant la Seconde Guerre mondiale de Corse. Donc pour moi, moralement. Et j'ai beaucoup de respect pour tous les candidats. Je connais certains, je ne connais pas les autres. Ça n'a aucune importance. Je connais François Pupponi. Je sais comment, tout récemment encore, il était prêt à prendre un avion pour aller soutenir quelqu'un qui n'est pas tout à fait en odeur de sainteté chez tout le monde. Benjamin Netanyahou, mon ami le plus proche, qui a fait un résultat incroyable. Il m'a dit, Meyer, je viens avec toi, on va soutenir Bibi. Moi, je ne peux pas oublier ça. Vous savez, je me mouille pour très peu de candidats, j'ai des dizaines d'appels. Je dis aujourd'hui, écoutez ce que je vous ai dit. Il y a 576 députés, j'ai un frère, et j'ai du respect, peut-être même de l'amitié pour tous les autres candidats. Mais aujourd'hui, par esprit de justice, par esprit de reconnaissance, parce que nous sommes attachés à ce pays, parce que je le vois en commission d'enquête parlementaire actuellement sur les terribles attentats qui ont eu lieu à la préfecture de police, dont, entre parenthèses, il y a un rapport direct avec le département, puisque Michael Harpon était issu d'une mosquée problématique de Gonesse. Je vois le talent, la force, la lucidité. Il défend les Sarcellois et son département partout où il est, avec toute la force, la reconnaissance et le respect qu'il a de l'ensemble de l'échiquier politique, et en particulier de moi-même. Voilà, donc c'était simplement pour l'exprimer publiquement à côté de François ce soir.
Voilà qui est dit, hein, Meyer Habib donc qui fait sa déclaration d'amour à François Pupponi donc et qui est venu le soutenir jusque Sarcelles. Voilà, allez, c'est l'heure de recevoir tout de suite notre premier invité, direction Fontenay-sous-Bois les amis. France Maghreb 2, le grand forum spécial municipal 2020, l'entretien d'admission. Et nous entrons dans le dur, messieurs, dames, dans la dernière semaine de ces municipales, évidemment, pour cette campagne, avec comme premier invité de la semaine, monsieur Jean-Philippe Gautret, qui est maire actuel de Fontenay-sous-Bois. On est dans le 94. Monsieur le maire, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur France Maghreb 2.
Merci.
Avec côté Nassim Lachlach, qui est chroniqueur dans le LGF, mais un chroniqueur aussi qui n'est pas tout à fait, j'ai envie de dire, loin de la ligne d'arrivée, parce qu'il est à vos côtés aussi sur votre liste, hein, n'est-ce pas, monsieur le maire ?
Tout à fait, il est maire adjoint sortant.
Voilà.
Donc, et il est à mes côtés, candidat sur la liste Vivre Fontenay.
Vivre Fontenay, Nassim, bonjour.
Bonjour, Christophe.
Alors, monsieur le maire, il y a une petite particularité en ce qui vous concerne, c'est que vous êtes maire depuis 2016 et que vous êtes arrivé en cours de mandat et vous avez été élu par le conseil municipal. Certains disent, vous n'avez pas été élu par le peuple.
Bah, si je suis élu depuis 2008,
oui.
Puisque j'ai été élu à 27 ans. Comme j'ai tout de suite eu des responsabilités, puisque j'étais adjoint au maire à l'Habitat.
Ouais.
Puis en 2014, réélu sur la liste conduite par Jean-François Voguet, adjoint à l'Habitat et à l'Urbanisme. Et puis effectivement, Jean-François Voguet a voulu passer le relais en cours de mandat.
Mmh.
Et donc le conseil municipal m'a réélu en 2016, puisque quels que soient les candidats et les listes, ce sont toujours les conseils municipaux qui élisent leur maire.
Bien sûr. Mais alors là, on peut dire que c'est votre première, j'ai envie de dire, en tant que maire.
C'est mon baptême du feu.
Baptême du feu.
Comme tête de liste. Et donc j'ai la responsabilité de porter la liste qui rassemble une dynamique citoyenne très forte et puis qui rassemble toutes les forces de gauche présentes sur la ville et écologistes pour essayer de continuer à porter une politique solidaire, écologique, citoyenne, qui fait l'ADN de notre ville.
Alors justement, en tant que baptême du feu, ça démarre plutôt pas mal parce que vous avez réussi à unir autour de vous une grande partie, pour ne pas dire quasiment toute la gauche.
Exactement, c'était un pari difficile. On le voit, nous sommes quasiment la seule ville de plus de 50 000 habitants à avoir réussi à signer cet accord.
Ouais.
Il donne la place importante à chacun et puis aussi aux citoyens, puisque on a 20% de la liste qui présente des noms encartés et citoyens lambda engagés dans la vie locale. Et puis on a un taux de renouvellement d'au moins 30% sur les places éligibles et la liste est renouvelée à 50% avec une moyenne d'âge de 46 ans. Donc voilà, on allie expérience et renouvellement et jeunesse. Et je crois que c'est ce qui fait la richesse de notre dynamique.
Quels sont vos liens avec les communistes, monsieur le maire ?
Bah, j'en suis très proche, mais je suis pas membre du Parti communiste. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant dans cette construction à Fontenay, c'est que parfois les gens me disent « Mais vous êtes insoumis, vous avez été l'un des premiers maires à donner votre signature à Jean-Luc Mélenchon en 2017. » D'autres me disent « Vous êtes écologiste, parce que nous menons des politiques écologiques. » D'autres me demandent si je suis communiste. Je crois que je suis surtout empreint de la culture fontenaisienne. Vous savez, dans les années 70, il y a eu beaucoup de Sud-Américains qui sont arrivés, des réfugiés politiques liés aux dictatures. Et j'ai, dans ma culture politique, dans ma formation politique avec des militants, j'ai beaucoup appris avec eux. Et ils ont construit, notamment en Uruguay, ce qui s'appelle le Front Populaire, qui
ouais.
rassemble l'ensemble de la diversité de la gauche. Je crois que je suis issu de cette dynamique-là. Je suis un militant à la base de quartiers et d'associations de quartiers, puisque j'ai grandi dans l'un des quartiers les plus populaires de la ville.
Ouais.
Non, plus que ça, c'est que j'ai grandi dans l'un des plus populaires de la ville.
Ouais.
J'étais à l'école à Fontenay, et aujourd'hui j'ai décidé d'y faire grandir mes enfants, et j'habite aussi dans un autre quartier, mais un quartier très populaire de la ville.
Au cours de ces 4 années, vous avez été maire, donc depuis 2016, est-ce que vous avez des regrets, ou peut-être par rapport à des choses que vous n'avez pas pu achever complètement, des dossiers qui restent en cours, et auquel cas il faudrait que les électeurs de Fontenay puissent vous faire confiance à nouveau, vous réélire pour que vous puissiez terminer certains chantiers en cours?
Des regrets, j'ai pas l'habitude d'avoir des regrets. Par contre, ce qu'on fait, c'est jamais parfait. Et il faut toujours. C'est pour ça que c'est bien dans la démocratie de repasser devant les électeurs. Par contre, on a envie de poursuivre d'abord pour que cette ville reste accessible à tous. Vous savez, Fontenay est une ville très attractive,
ouais.
à proximité de Paris, où le foncier est très cher et où on a la particularité d'avoir à la fois des gens très pauvres et des gens très riches. J'ai fait BFM TV parce que il y a plus de 600 familles qui payaient l'ISF l'année dernière à Fontenay, et en même temps on a des quartiers très pauvres, où il y a de la pauvreté, et nous on se bat pour qu'il y ait par exemple toujours 35% de logements sociaux et pas vendre les logements par exemple.
C'est le cas en ce moment à Fontenay, 35% de...
C'est le cas, et on continue dans chaque nouvelle opération de continuer de construire du logement social, parce que il y a 3000 demandeurs de logement, et qu'il faut répondre aussi à la question du logement. C'est aussi ça, être solidaire dans une ville comme Fontenay.
On va rentrer un peu dans le dur, monsieur le maire. En quoi vous êtes concerné par le Grand Paris à Fontenay? Est-ce qu'il y a par exemple en matière de transport l'arrivée d'une nouvelle ligne de métro? Est-ce qu'il y a des choses qui vont se faire?
On est le premier pôle de développement économique de l'Est parisien, et on est la deuxième gare d'Île-de-France, hors Paris après la Défense. Plus de 100 000 voyageurs jour, et pourtant on a une gare qui a été conçue dans les années 70, qui est obsolète, qui est dangereuse. Il n'y a pas une semaine où il n'y a pas un incident sur la gare Val-de-Fontenay, et donc on a trois gros projets qui doivent arriver dans les années qui viennent. D'abord, c'est le tramway qui enfin...
Alors lequel arriver. Parce qu'il y en a 50 000
le T1 qui a été bloqué à Noisy-le-Sec par le maire UDI de Noisy-le-Sec, qui a enfin été il va pouvoir arriver jusqu'à Montreuil, et il devrait avant 2026 arriver à Fontenay.
D'accord.
Et puis on a le prolongement de la ligne 1 et la ligne 15 du Grand Paris Express qui doivent arriver. Nous on se bat pour que ce soit une mise en service en 2030. Ça fait déjà assez loin, mais en même temps construire des tunnels c'est long, et quand il y a pendant 40 ans il n'y a pas eu d'investissement dans les transports en commun, effectivement que c'est toujours trop long, mais il y a une nécessité qu'il y ait ces transports arrivent pour désengorger la ligne A et la ligne E.
Du coup, avec toutes ces nouveautés du côté de Fontenay, ça risque un peu d'augmenter le mètre carré du côté de Fontenay, non?
C'est déjà le cas. Le prix au mètre carré moyen est de 5 500 euros, et le prix varie entre 2 500 et 12 000 euros du mètre. Et donc il y a une nécessité de continuer à travailler à la mixité sociale, à faire en sorte que tout le monde, que ce soit les classes populaires mais aussi les classes moyennes, puissent continuer d'accéder à la ville, à Fontenay. Le danger, je dis souvent, c'est pas que la ville se paupérise, c'est que ça devienne un vrai ghetto de très 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 riches, et c'est pas ce qu'on porte dans notre ville, c'est pas ce qui nous a vu grandir, et c'est pas ce qui fait que j'ai eu envie de continuer à y faire grandir mes enfants.
Jean-Philippe Gautret, maire de Fontenay, hein, qui se présente à vous, électeur de Fontenay, dimanche prochain, le 15 mars, pour le premier tour de cette élection municipale. Que vous disent la population que vous rencontrez sur le terrain? Parce que c'est vrai, il faut le dire, en campagne électorale, on vous voit davantage.
Ah bah on me voit déjà beaucoup, vous savez, on me voit déjà dès le matin.
Quand je dis vous, c'est l'ensemble, hein, des candidats, des maires sortants. Effectivement, on a besoin d'aller quand même à la rencontre de la population pour leur expliquer le projet.
C'est extrêmement important, c'est ce qu'on fait au quotidien, ce que j'allais vous dire. Et c'est parce que vous parliez de tous les élus que je précisais pour moi. Là, dès le matin, vous me trouvez dans la rue à emmener mes enfants à l'école, tout simplement. Mais c'est surtout, on voit encore plus de monde en campagne parce qu'on a décidé d'utiliser une méthode encore plus importante et encore plus participative. Par exemple, j'aurais fait à la fin de la campagne, à la fin de la semaine, depuis 6 mois, plus de 60 rencontres voisins-voisines, et j'aurais vu plus de 500 personnes qui nous disent on a besoin de continuer à avoir du logement, d'avoir des politiques publiques de solidarité et en direction des enfants. Je pense notamment, c'est bien ce que vous faites, mais il faut continuer aux classes de découverte gratuites ou au petit déjeuner gratuit pour les enfants le matin. Je pense à ce qu'on fait en direction des retraités, ou je pense au projet qu'on a engagé, par exemple la reconstruction de la nouvelle médiathèque et d'un nouveau centre de santé qui va nous permettre de doubler les consultations dans un moment où la désertification médicale touche toutes les communes.
Alors justement, ces différentes rencontres, est-ce qu'ils vont un petit peu dans la même lignée de ce qu'on peut entendre dans les chaînes de médias d'info en continu? Les attentes des Français sont bel et bien la sécurité?
Non.
Non?
Non, ça ne veut pas dire qu'il se passe rien à Fontenay, mais je suis assez surpris pour ce qui nous concerne, nous, cette année. La question de la sécurité n'est pas un sujet majeur de la campagne. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe pas des choses comme partout. On est en cœur de métropole, donc on a le droit, il faut se battre pour la sécurité pour tous. C'est la première des libertés. Ceci dit, le vrai sujet d'aujourd'hui des Fontenaysiens, c'est la question de la solidarité. Je vous l'ai dit, le logement est un sujet majeur, mais aussi des politiques publiques qu'on mène. Les gens ne nous demandent pas moins de services publics, ils nous demandent plus de services publics, de continuer à répondre à leurs besoins pour les vacances, pour l'éducation, pour la culture, pour les retraités, les services en direction des retraités, bref, tout un nombre de choses qui sont importantes pour le quotidien des gens. Ils nous parlent beaucoup de l'écologie, de l'espace public, de comment on continue d'avoir beaucoup d'espace vert. À Fontenay, on a 600 000 m² d'espace vert dans le grand ensemble, et on continue, on va inaugurer cette année un nouveau parc de 6 000 m² qu'on vient de racheter. Et il nous parle aussi, bien évidemment, quand on parle d'espace public, de propreté, d'entretien, d'incivilité. Et donc, ça nous invite à continuer de poursuivre les efforts que l'on mène déjà dans ce secteur pour continuer d'améliorer le quotidien de l'espace public, là où on se rend compte, finalement, tous ensemble.
Donc, être maire à plein temps, comme vous, monsieur Gautret, c'est essayer d'innover tous les jours?
C'est continuer d'innover Et pour innover, il faut écouter et dialoguer. Et donc, on fait et s'interroger en permanence sur la pertinence de nos politiques publiques. Et donc, oui, effectivement, on innove en permanence. C'est ça aussi qui fait la richesse d'une fonction telle que maire d'une commune de pas tout à fait 53 000 habitants.
Très bien. Alors, en matière de sécurité, parce qu'il faut qu'on en parle, vous êtes doté d'une police municipale à Fontenay.
Oui.
Armée.
Non.
Non. C'est votre choix.
Oui.
Oui. Et vous l'assumez.
Je le revendique.
C'est encore mieux. Très bien.
En fait, on a une police municipale de 12 agents. On l'a doublée dans la dernière période et peut-être qu'elle augmentera légèrement avec pour vocation de faire ce que j'appelle la police dans l'espace public.
C'est de la prévention, c'est ça? L'accompagnement?
C'est du répressif sur le stationnement et sur la brigade verte, les incivilités liées au dépôt sauvage et puis de la prévention. Il règle beaucoup de choses liées à l'espace public et à des problèmes de voisinage, etc. Mais la délinquance et la criminalité, c'est de la responsabilité de la police nationale. Si on va avoir la même police partout, il y a déjà des problématiques liées à l'institution policière dans son rapport à la population. Et donc, on va pas en rajouter en divisant sur le territoire en fonction des moyens. Nous, on veut que ce soit l'État qui assume cette responsabilité pour tout un chacun.
Est-ce que vous êtes favorable au retour de la police de proximité partout en France?
Ah, je pense que ce serait une nécessité.
Chose qu'a supprimé Nicolas Sarkozy, on s'en souvient.
Ce serait une nécessité. Ça voudrait dire qu'on augmente largement les effectifs. Moi, quand j'étais plus jeune, je voyais les policiers, les îlotiers se balader à pied dans la rue. Aujourd'hui, ils passent vite en voiture parce qu'ils sont pas assez. Et donc, c'est surtout des hommes et des femmes.
Est-ce qu'ils ont vocation à aller jouer au foot avec les jeunes, par exemple?
Je sais pas si c'est, la question est pas de savoir s'ils ont vocation à jouer au foot avec les jeunes. Ils ont vocation, en tout cas, à dialoguer avec la population, que ce soit les jeunes, les moins jeunes, parce que vous savez, il y a pas que les jeunes qui ont parfois des difficultés dans le lien avec la police. C'est avant tout, il y a besoin que la police, mais toutes les institutions, toutes les administrations gardent le lien avec la population. C'est extrêmement important si on veut qu'il y ait de la confiance entre la population et son service public.
Donc on continue cette police municipale non armée, c'est important, et on va la renforcer, c'est ce que vous comptez faire si vous êtes élu.
Tout à fait.
Le 22 mars prochain. Alors, il y a un autre sujet aussi qui est très important, qui intéresse évidemment un certain nombre de citoyens. On est tous concernés parce qu'on a des enfants. Les écoles à Fontenay, comment se portent-elles et quelles sont vos ambitions pour ces dernières? Par exemple, à propos de la cantine, est-ce qu'on mange bio à Fontenay? Est-ce que c'est un projet? La cantine gratuite, est-ce utopique?
On est, je crois, tout en étant très modeste, une des villes très regardées sur la qualité de notre dispositif de restauration collective et en termes d'innovation. Et pour dire les choses très concrètement, on a un système complet. D'abord, on a une tarification au coefficient familial.
Ouais.
Les trois premiers quotients, la cantine est gratuite. Le plus gros quotient, il paye la moitié du repas, c'est-à-dire pas plus de 6 euros.
D'accord.
Pour un repas de qualité, puisqu'on a presque 60% de bio dans les aliments, et on a mis dans le programme qu'on cherchait à tendre vers 100% autant que faire se peut, et on développe les circuits courts. On a par exemple des produits qui viennent de la bergerie de Rambouillet en région parisienne.
Ça, et c'est une ambition, ça, 100%.
100%, c'est l'ambition dans le programme.
Ouais.
Tendre à, parce que 100%, c'est pas toujours simple. Et puis, parce que on n'a pas décidé d'en rabattre, et parce qu'on travaille à l'inclusion, on a mis en place les menus de substitution alternatives à la viande et végétarien, qui permet qu'à renforcer l'inclusion pour tous ceux qui ont des régimes alimentaires, pour quelque raison que ce soit.
Et ça règle beaucoup de problèmes.
En tout cas, ça permet de continuer à inclure et à éviter d'exclure. Vous savez qu'en France, tout se passe autour du repas.
Ouais.
Et donc, partager, inclure, c'est aussi avoir les enfants qui partagent tous autour de la table un repas et de la nourriture. Et dernière chose, parce que élément d'innovation qu'on vient de faire en début d'année, c'est qu'on teste de la vaisselle végétale pour supprimer définitivement le plastique et pour lutter contre les perturbateurs endocriniens. Et donc, en termes de santé publique, là aussi, on est innovant et surtout, on protège nos enfants. Donc, vous voyez qu'on a un système de restauration collective qui est extrêmement performant et extrêmement innovant, et on vient nous voir de toute la France pour regarder comment on a réussi à faire ça en régie publique.
On rappelle, monsieur Gautret, que pour pas mal de familles, le repas du midi est peut-être le seul repas pour le gamin à l'école.
C'est pour ça que, exactement.
Il doit être de qualité.
Exactement. Et c'est pour ça que nous avons décidé de rendre l'année dernière le petit déjeuner gratuit, pour que aussi ceux qui ne déjeunent pas le matin ou qui n'ont pas, pour quelques raisons que ce soit, ou pour des raisons financières, puissent déjeuner et avoir quelque chose dans le ventre pour commencer les cours le matin, et c'est pareil pour le midi.
Quels sont vos rapports avec les cultes? Je sais que vous avez une forte communauté juive, musulmane aussi à Fontenay. Comment ça se passe?
On a 4 églises, 3 mosquées, 3 synagogues et on a un rapport avec les communautés quelles qu'elles soient et notamment religieuses, de très bons rapports, on les voit régulièrement. Et mes prédécesseurs, notamment Louis Bayard, en 91, après la guerre du Golfe, a créé un groupement interconfessionnel fontenaisien, le GIF, qui permet à toutes les communautés de se parler régulièrement, de débattre régulièrement sur des thèmes philosophiques et puis surtout de construire des liens. Parce que je crois que quand on se connaît,
c'est important. Ben,
ça permet de se respecter les uns les autres. Moi, j'ai grandi dans un quartier, hein, le quartier des Laris, qui est l'un des quartiers les plus populaires. À 200 mètres, il y a une synagogue. À 300 mètres, il y a une église et à 500 mètres, il y a une mosquée. Et tout ça vit bien ensemble.
Ça fonctionne.
C'est notre volonté. Ça fonctionne. Quand les politiques sont responsables et favorisent que chacun ait sa place dans la ville, je crois que ça marche bien.
Quelle sera votre première grande action si vous êtes réélu le 22 mars prochain, monsieur le maire ?
Il y en a pas une plus que les autres. C'est déjà de pouvoir poursuivre nos politiques publiques innovantes, solidaires, écologiques et surtout de laisser que chacun ait sa place dans notre ville qui... Et je crois qu'aujourd'hui, on voit bien que l'exclusion d'un certain nombre de familles de Paris, ça a été le cas il y a 20 ou 30 ans, mais on a un nouveau phénomène cette année, nous impose que nous, qui sommes en cœur de métropole, à proximité de Paris, tout un chacun ait sa place dans la ville et puisse faire ce qu'il a envie de faire dans l'espace public et dans ses divertissements et que chacun se sente puisse s'épanouir dans notre ville.
Vous avez dans votre liste une moyenne d'âge assez jeune finalement et puis une équipe qui a été renouvelée.
Tout à fait, 46 ans, c'est à la fois on a gardé des gens d'expérience parce qu'il faut pas faire du jeunisme et en même temps on a renouvelé avec des jeunes parce qu'il faut former et donc et notamment des forces vives. Donc voilà, on a une moyenne d'âge assez jeune effectivement pour ce qui concerne la politique. Et puis on a des gens qui viennent de tous les quartiers et donc c'est aussi ça, être élu local, c'est essayer d'être présent au plus près des réalités du quotidien des habitants de notre ville.
Et il faut qu'on en parle parce qu'évidemment c'est dans l'actualité, on ne parle que ça, le coronavirus. Est-ce qu'il y a un dispositif particulier à Fontenay autour de ce virus?
On applique les directives nationales et notamment de l'agence...
Qui sont bonnes ou pas? Dites-nous.
En tout cas, elles ont le mérite déjà de nous faire prendre les bonnes pratiques. Et d'anticiper, on a mis en place du coup une cellule de veille avec les responsables, les directeurs des différents secteurs de la ville. Et puis on informe, on communique. Et puis on appliquera, s'il le faut, les directives du ministère en fonction de l'évolution de l'épidémie. Je crois que surtout il faut rassurer parce que effectivement ceux les plus en difficulté face à une épidémie de ce type, ce sont les personnes fragiles, et notamment les personnes en EHPAD ou qui ont des maladies chroniques. Et donc, faut être vigilant. Et puis, faut avoir les bonnes pratiques qu'on devrait déjà avoir, d'ailleurs. C'est se laver les mains, les pratiques d'hygiène, puisque la transmission du virus, c'est la base. Mais ceci dit, on se rend compte avec ces épidémies que la base, on l'a pas forcément, y compris dans les collectivités, en tout cas là où il y a des groupes d'enfants, etc.
Ouais.
Et donc, faut rappeler les règles d'hygiène. Et notamment se laver les mains régulièrement, plus régulièrement que la normale, pas tousser au visage de son camarade de classe ou de son collègue, mais bien faire attention pour éviter la propagation rapide du virus, qui pour l'instant, je le rappelle quand même pour rassurer, tue largement moins, heureusement, que la grippe.
Alors, Nassim Lachlach, qui est à nos côtés, chroniqueur dans le LGF, accessoirement, mais surtout adjoint au maire à vos côtés, donc à Fontenay, qui fait campagne aussi avec vous et pour vous. Quelle est ta question, Nassim, pour monsieur le maire?
Je vais montrer aux auditeurs que je peux garder une certaine objectivité et rester dans mon rôle de chroniqueur. Ma question, c'est, monsieur le maire, qu'est-ce qui vous différencie des autres candidats, si ce n'est vos affiches de campagne, à savoir... Parce que pour ceux qui connaissent pas Fontenay, on a 4 candidats sur la ville et on a les 3 affiches des concurrents de Monsieur Gautret où il y a une photo individuelle et on a l'affiche de Monsieur Gautret où il y a une photo collective. Donc est-ce que ça veut dire quelque chose? Qu'est-ce qui vous différencie des autres?
Je crois que ça montre déjà qu'on a une dynamique collective forte et un projet collectif qu'on pense soit à l'intérêt général et au bien commun. Premièrement, rassembleuse, une dynamique rassembleuse qui rassemble toutes les énergies dans leur diversité, mais avec un vrai parti pris, c'est nos valeurs, la solidarité, l'écologie, la citoyenneté. Et puis surtout, ce qui nous différencie, c'est que nous, on veut que la ville reste accessible à tous. On veut pas vendre le logement social, on veut pas mettre le stationnement payant, on veut que le stationnement il reste gratuit, parce que de toute façon, les problèmes de stationnement, que ce soit gratuit ou payant dans l'espace public, c'est difficile. Et puis surtout, on veut continuer à avoir un haut niveau de service public, parce que mes opposants principaux, d'En Marche ou de la droite classique, nous disent que ce qu'on fait c'est bien, mais eux ils feraient différemment, avec une autre méthode. En général, cette méthode-là, c'est de supprimer la dépense publique, c'est diminuer le service rendu aux Fontenaisiens et aux habitants. Or, ce que les gens nous demandent au quotidien dans la campagne, c'est avant tout de continuer à développer nos projets, par exemple le nouveau centre de santé, la nouvelle médiathèque, ou encore l'écolo, le pass solidaire. Bref, tous les services publics qui effectivement ont un coût, mais qui, pour nous, parce que on cherche à pas le faire peser sur les ménages, on n'a pas augmenté la fiscalité depuis 4 ans locale, mais par contre, c'est le développement économique, les entreprises qui arrivent, qui participent économiquement au développement et au paiement des services publics.
Satisfait de la réponse, monsieur Lachlach?
Je pense que je vais voter le 15 mars pour.
Ah, il y a des chances. Il y a des chances. Bon, vous partez confiant, monsieur le maire?
Très prudent.
Oui, bien sûr.
Prudent parce que à Fontenay, ça a toujours été une bataille.
Ouais.
La droite, encore plus aujourd'hui, a des appétits pour une ville qui est attractive, qui franchement est très sympathique, agréable, et en même temps confiant parce que confiant de nos forces, de notre projet, et puis confiant parce qu'on a une dynamique rassembleuse pour l'intérêt général et pour faire en sorte que cette ville, elle continue à nous ressembler et donc à nous rassembler.
Ça peut jouer au premier tour, cette histoire, ou pas?
Peut-être.
Ouais. Est-ce qu'il y a des alliances possibles ou pas?
Entre le premier et le deuxième?
Oui,
on peut penser.
Vous êtes ouvert?
Ah non, nous, il n'y a pas d'alliance possible avec la droite, ni avec En Marche, ni avec la droite.
D'accord, c'est clair. Pas d'alliance avec La République En Marche, ni avec les LR.
Non, ça c'est clair.
D'accord. Allez, pour finir, monsieur le maire, vous avez une minute pour vous adresser à vos citoyens, aux Fontenaisiens et Fontenaisiennes, pour leur dire pourquoi le 15 mars prochain, soit dimanche prochain, il faut voter dès le premier tour, et c'est important, pour monsieur Jean-Philippe Gautret et son équipe, pour vous réélire à la mairie de Fontenay. C'est à vous de jouer, monsieur le maire.
Si vous avez envie que Fontenay continue d'être un marchepied pour vous, de vous accompagner, si vous avez envie que Fontenay reste ce qu'elle est, c'est-à-dire une ville agréable, une ville où son espace, ses espaces verts sont nombreux, une ville où vos enfants, vous avez à cœur de les emmener à la médiathèque, au cinéma ou dans les nombreux clubs sportifs, si vous aimez cette ville diverse, variée, si vous aimez ce bout de ville à la fois de campagne et ce bout de ville très urbain, si vous avez envie que cette ville continue à nous ressembler dans sa diversité, à nous rassembler comme une grande famille, oui, effectivement, il faut continuer à voter pour nous. C'est important, la démocratie locale, c'est ce qui fait aussi le vote quotidien, et c'est par ces services publics que cette ville, elle restera une ville que l'on aime.
Merci beaucoup, monsieur le maire de Fontenay-sous-Bois dans le 94, Jean-Philippe Gautret, d'être venu vous présenter vos ambitions, votre programme, à vos côtés Nassim Lachlach, maire adjoint à vos côtés, qui le sera toujours si vous êtes réélu, bien sûr.
C'est ça.
Je pense qu'il va prendre un peu de galon, non?
C'est ça.
Ah, très bien. Merci, monsieur le maire. Merci, Nassim. À très bientôt.
Merci
sur France Maghreb 2. Restez bien à l'écoute du Grand Forum. Ça se poursuit dans un instant.
France Maghreb 2.
Le Grand Forum, merci d'être avec nous. Bon début de semaine, ravi de vous retrouver encore une fois. Nous étions à Fontenay-sous-Bois il y a quelques instants avec le maire sortant, et nous serons à Gennevilliers tout à l'heure à 17h30 avec monsieur Nasser Lajili, qui se présente candidat tête de liste. Évidemment, candidat sans étiquette, que vous écouterez tout à l'heure, que vous connaissez parce qu'il est aussi chroniqueur dans le LGF. Un petit peu, évidemment, en ce moment occupé à la campagne, et c'est bien normal. Il viendra présenter ses idées, son programme pour Gennevilliers tout à l'heure à 17h30. Pour l'heure, c'est les rendez-vous d'Anna, messieurs, dames. C'est parti.
Le Grand Forum vous présente chaque lundi à 17h les rendez-vous d'Anna.
Anna Guézard-Boicaz, bonjour Anna.
Bonjour Christophe, bonjour mesdames et messieurs.
Comment ça va?
Je vais bien, je vous remercie. Ça fait plaisir d'être avec vous dans le LGF sur les ondes de France Maghreb 2.
Ah, exactement. Alors ma chère Anna, tu n'es encore pas venue toute seule. Décidément, tu es à chaque fois bien accompagnée.
Oui.
De qui s'agit-il aujourd'hui?
Alors, le premier réseau social développé par les musulmans et ouvert au monde entier, de Shukran, né pour diffuser l'art, la culture, la beauté du monde arabe à travers le partage des images et vidéos. Elle a 30 ans, elle a créé ce que présentent les médias italiens comme étant l'Instagram arabe. Son application compte plus d'un million d'abonnés aujourd'hui. Madame Fatna El Hamrit est avec nous dans les rendez-vous d'Anna aujourd'hui. Bonjour Fatna.
Bonjour Anna.
Bonjour Fatna.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Elle est venue d'Italie. Moi,
oula. De quelle région d'Italie, Fatna?
De Venise.
Ah oui, qui est en quarantaine d'ailleurs.
Absolument. Et je pense que là, elle ne peut pas retourner chez elle pour l'instant.
Pour le moment, non.
Eh ben voilà, on va sortir les gants, je vais ramener des masques. Non, je plaisante, Fatma. Fatma, pourquoi de Choukran? Pourquoi vous, tu as appelé ton application de Choukran, la plateforme?
Et de Choukran, parce que le mot Choukran
veut dire merci.
Merci en arabe. C'est une application qui a désir faire voilà remettre en jeu le mot de la gratitude, et donc avoir un réseau social, une application qui qu'elle va dire merci pour ce que vous partagez avec nous, merci pour le temps que vous dédiez et merci pour le contenu que chaque fois vous nous pondrez, voilà.
Et tu n'es pas la seule fondatrice. Vous, en tout, vous êtes un groupe de trois personnes, trois Marocaines musulmanes qui vivent en Italie.
Oui, nous sommes une équipe faite par des Italiens et des Marocains. Et donc, voilà, nos sièges sont à Milan. Et l'application, c'est un réseau social né pour dire merci et surtout pour diffuser voilà, l'art, la culture, la gastronomie et tout ce qui est beau dans le monde arabe et le monde musulman en général.
Comment vous avez eu l'idée justement de créer ce réseau social en sachant que maintenant on est dans l'ère d'Internet, des réseaux sociaux, c'est pas ça qui manque, hein?
Oui, c'est vrai, en fait, c'est une expérience, on peut dire, un petit peu folle, car nous sommes des jeunes qui ont eu le désir et l'exigence de faire quelque chose pour le monde arabe et donc créer une plateforme pour les gens arabes, les jeunes, et pour lui dire voilà, il y a une application, vous pouvez partager et faire connaître votre talent et votre culture et tout ce qui est voilà, beau dans...
Et depuis tout à l'heure, on parle des musulmans, du monde arabe, mais est-ce que vous avez des abonnés aussi de d'autres confessions ou des, je veux dire, des Italiens,
oui.
Français?
Oui, oui, c'est un réseau social ouvert à tout le monde. Et il y a des Italiens, des Européens, des non-musulmans. Donc, c'est une plateforme ouverte. Et on
est-ce qu'ils sont intéressés
comme ça
par connaître ce que le monde musulman a à offrir comme art?
Oui, bien sûr, car c'est un lieu qui va voilà, et casser les murs, et donc faire parler les deux cultures, la culture arabe avec la culture occidentale. Donc c'est un lieu vraiment de paix, de gratitude et surtout où les gens ne se jugent pas.
Franchement, ben, bravo, j'aime l'initiative.
Merci.
Quelques mois à peine après sa création, elle faisait partie des 5 applications les mieux téléchargées, en sachant qu'elle a commencé à cartonner d'abord en Asie du Sud, Pakistan, Bangladesh, et aujourd'hui elle fait partie des 10 applications les plus téléchargées au Maroc, par exemple.
Oui, c'est vrai, en fait.
Bravo. Et...
Oui, c'est vrai, en fait. Et on était au Maroc, nous sommes été dans la top 7. Ah. Donc la 7e application au réseau social le plus téléchargé au Maroc, en Algérie, en Tunisie, et après en top 10 en Égypte.
Oui.
Et aussi dans les pays de l'Asie du Sud, donc Pakistan, Inde et tous ces pays-là.
Franchement, bravo. Alors vous y avez pensé en 2015. Et vous l'avez créé en 2017. Pourquoi ça vous a pris 2 ans pour le faire ou pour...
Non, alors l'idée est née en 2015. Et après, l'équipe a beaucoup travaillé sur l'idée. Donc, nous avons fait les sites, le blog et après les applications Android et iOS. Et donc, ça va prendre du temps pour... créer l'aspect voilà et design, et c'est pas facile de faire une appli.
Justement, donc, quelle est la difficulté quand lorsqu'on veut créer une application comme celle-ci?
Et la difficulté, c'est de trouver les personnes qui comprennent ce que tu veux, et après de le faire de manière touchable. Mm-hmm. Donc voilà, et si tu as une idée, par exemple, et graphique, et tu ne sais pas la faire, tu dois chercher quelqu'un que tu comprends, mm-hmm. et qu'il va mettre ça et on...
Et vous avez fait appel à d'autres personnes pour la création des applications ou au sein même de l'équipe, vous avez des graphistes et des concepteurs d'applications?
Nous avons élargi notre équipe, et donc avec des personnes qui travaillent dans le monde web, et donc qui sont des développeurs et des personnes expertes dans le monde web. Donc oui, mm-hmm. nous sommes une très grande équipe maintenant.
En parlant de graphisme, vous avez un choix judicieux. C'est que vous avez choisi le logo, en fait, le logo de l'application de Shukran,
ouais.
qui est en forme de la main de Fatma.
Ouais.
C'est une main comme ça,
ouais.
pour faire pour éloigner le mauvais œil.
Oui, en fait, la main, c'est pour nous, c'est pas la main de Fatma, mais c'est la main qui te donne quelque chose. Mmh. Donc la main qui va vers toi, elle te dit merci. Mmh. Et donc c'est la main posée vers l'autre.
Mais ça te rappelle aussi tes origines.
Oui, bien sûr. Oui,
on retrouve souvent ce symbole dans beaucoup de choses.
Ouais.
Alors, les fameuses touches j'aime qu'on connaît sur Facebook ont été remplacées, qu'on connaît sur Facebook ou Instagram, hein,
ouais.
ont été remplacées par Shukran, carrément, oui. Shukran. Par le merci, sur l'application. Quel autre changement sympa vous avez rajouté
Voilà, dans notre appli, on peut un peu trouver des espaces comme l'homepage où nous avons notre abonné personnel. Mm-hmm. Et après, il y a une chose très belle qui s'appelle Le Monde. C'est une sorte de fleuve où nous pouvons trouver au temps courant les photos qui arrivent du Maroc, de l'Amérique, de l'Europe. Mm-hmm. Et donc on va
instantanément, c'est-à-dire en live, en direct.
Ouais. Et voilà, et après il y a beaucoup de choses comme les Oumas où nous pouvons trouver toutes les choses qui concernent ce pays-là, donc mm-hmm. le Maroc, le Pakistan, l'Algérie, donc et on va trouver les photos sur la gastronomie, sur la beauté, sur l'art, la culture, et voilà.
Et quelle est la différence entre l'application de Shukran et les autres réseaux sociaux traditionnels?
Oui, en fait, le principe, on peut dire que c'est le même mm-hmm. au niveau technique.
Mm-hmm.
Mais pour nous, le principe moral, c'est très différent, car pour la première fois, nous avons une application, ou bien un réseau social, créé par le monde arabe, ou bien musulman, ouverte au monde. Mm-hmm. Donc, nous sommes habitués à avoir quelque chose qui arrive toujours de l'étranger vers le monde arabe, mais c'est pour la première fois, on a le contraire, et on peut dire voilà que le monde arabe peut faire beaucoup de choses, et surtout c'est un monde ouvert à la connaissance, au dialogue et tout ça.
C'est magnifique. Donc, est-ce que c'est pour ça que votre site est uniquement en anglais?
Oui, c'est
pas la langue arabe.
Oui, alors le site web est en anglais, mais l'application on peut la télécharger via Google Play au App Store.
Mm-hmm. Elle est en français ou pas?
Oui, alors l'appli va prendre la langue du système de portable.
D'accord.
Donc si vous avez la langue française, mm-hmm. elle va prendre le français s'il est en anglais.
Et est-ce que c'est une application payante?
Non, c'est gratuit comme et les autres, comme Facebook, Instagram et tout ça.
Mm-hmm.
Et maintenant, nous sommes presque 1 million.
Wow.
Donc c'est une belle chose, et surtout nous avons eu beaucoup reconnaissance, on peut dire,
comme ça,
car Al Jazeera nous a indiqué comme une des meilleures applications du monde arabe pour le 2020. Mm-hmm. Entre les 10 meilleures applications, et pour nous c'est une chose très belle,
c'est
car
magnifique.
Nous sommes partis tout petits.
Oui, absolument.
Et maintenant, voilà.
Absolument,
nous sommes...
c'est votre bébé, vous l'avez vu.
Voilà,
grandir.
Voilà, c'est ça.
Et comment, puisque c'est une application gratuite, j'imagine que vous vous faites rémunérer ou vous gagnez un petit peu avec la publicité. Est-ce que vous faites des échanges publicitaires
Pour le moment, pas encore, car et on doit avoir des nombres un petit plus grands. Donc, mais pour le moment, nous travaillons avec les gens qui nous aident et qui créent sur notre.
D'accord. Est-ce que vous avez des célébrités qui sont.
Oui, nous avons des célébrités marocaines, des chanteuses et après des stylistes. Et nous faisons beaucoup de partenariats offline avec les événements comme Kaftan du Maroc, comme Dubai Modest
Fashion. Je vais
Fashion.
Présenter d'ailleurs, je peux faire ma petite promo, Christophe. Je vais présenter le Kaftan du Maroc. On a déjà reçu le fondateur, l'organisateur de cet événement, Amin Mrani. Qu'on salue d'ailleurs.
Oui, salut Amine.
Le 6 juin.
Et voilà, après d'autres événements dans la mode, donc Milano Fashion Week, Torino Fashion Week, ou bien Dubai Modest Fashion Week.
Ah, bravo. Et par rapport à la confidentialité, et par rapport aux, comment on dit, Christophe, les données personnelles.
Ah oui, d'accord.
Comment vous faites pour... pour protéger les données personnelles.
Alors,
parce que dans d'autres, chez les concurrents, si on appelle ça comme ça, Facebook, Instagram, ce sont quand même de grandes applications et parfois il y a des failles. Parfois les gens, on lit comme ça des articles comme quoi les données ont été divulguées ou vendues, etc. Vous, qui êtes une grande application, mais vous n'avez pas encore atteint le niveau qu'on vous le souhaite en tout cas, comment vous faites pour protéger les données personnelles de vos abonnés?
Oui, alors. Et pour nous, ce thème, c'est très important et très sensible, car nous ne demandons pas beaucoup de choses. Mmh. Voilà l'email et la password pour s'inscrire. Et après, voilà le nom, le prénom. Et les données sont toutes réservées. Donc, il n'y a aucun système pour trouver les données de notre... et utilisateur. Mm-hmm. Donc la privacy, voilà. Yeah. Et c'est très important pour
quand vous faites pour considérez-moi comme de choukran pour les nuls, vous voyez, il y a le livre
comment ça s'écrit d'ailleurs, Anna, ce serait bien de le dire.
T-H-E S-H-U K R-A-N.
D'accord. Et vous allez donc sur le Google, Apple Store, pardon, et également sur Android, bien sûr, sur Google Play, pour télécharger l'application. Vous avez compris, on vous a expliqué un peu le fonctionnement. Il y a des beaux commentaires là sur Facebook. Hein. Vous êtes ravissante, me dit-on. Anna, toujours aussi belle. Voilà, vous pouvez continuer de commenter sur Christophe Le Grand Forum
en direct,
effectivement.
Sur Christophe, la page Facebook Christophe Le Grand Forum. On vous remercie infiniment d'être de plus en plus nombreux à nous écouter, à regarder le live. On est en bonne compagnie. Hein. Vraiment, on se sent pas seul avec les gens.
Mais moi, la question que j'ai envie de poser à notre invité, c'est est-ce que vous êtes plus proche en matière de fonctionnement de Facebook ou de Instagram?
Et on peut dire que nous sommes plus proches à Instagram, car il y a les gens chez nous peuvent partager des photos, des vidéos et des posts, donc écrire des choukran messages. Donc il n'y a pas un espace encore pour les articles ou pour partager quelque chose.
D'accord. Donc c'est photos, vidéos et posts.
Est-ce qu'il y a des messages privés, c'est-à-dire on peut s'envoyer des messages?
Pas encore.
Ouais. Ok.
On peut partager. On l'a compris. Je crois que vous l'avez posé la question, Anna, tout à l'heure. On peut partager une publication de quelqu'un. On peut commenter et on peut aimer.
Oui, un peu choucrané.
Choucrané, voilà. C'est et à ne pas confondre avec crâné, hein. Choucrané, bien choucrané. Sûr.
Remercier, voilà.
Voilà, remercier, absolument. Remercier. Arbe.
Alors, Christophe, j'ai encore une question ou...
Oui, vas-y.
Question. Et quels sont vos objectifs?
Alors, nos objectifs sont beaucoup. Et on espère de vous devenir, Inch'Allah, les premiers dans le monde arabe. Donc voilà, dire que le monde arabe a créé quelque chose et il est fier de cette chose-là. Et donc être les premiers dans le monde arabe comme et application. Et être une application positive pour les gens, mm-hmm. donc n'être pas une réseau social qui va mettre
créer des conflits
voilà entre les gens, mais le contraire.
Et est-ce qu'il y a un contrôle par rapport aux publications, c'est-à-dire s'il y a des photos qui ne respectent pas forcément la culture musulmane ou la culture arabe en général, est-ce que vous la laissez passer ou il y a une sorte de censure?
Le contrôle, c'est nous, c'est très important. Et voilà, toutes les photos qui ne respectent pas les gens et mm-hmm. pas la culture musulmane, elles viennent tout de suite supprimer. Mais la chose très belle chez nous, que les gens, quand entrent dans l'appli, ils vont respecter cette même maison.
Oui, on peut dire. Respecter donc, l'ADN, le concept voilà, de l'application.
Voilà.
On rappelle, parce qu'on nous demande le nom de l'application hein, sur le live, donc c'est...
De Choukran.
Ouais.
Voilà.
On va le mettre, on va taguer la page de Choukran.
Oui, parce que là, il y a beaucoup de monde qui demande. Hein.
Oui. Oui, en fait le mot, c'est un mot est composé par l'article anglais 2
ouais.
et le mot est arabe choukran, donc c'est pour donner de la valeur et au mot merci, donc de merci, de choukran, donc le merci, c'est ça.
Le remerciement, oui, c'est ça. Franchement, c'est une excellente initiative. Est-ce que vous communiquez comment? C'est-à-dire vous faites de la publicité autour de l'application pour la faire connaître le...
Parce que et on doit toujours chercher des contacts avec la presse, donc la presse arabe, la presse française maintenant, mm-hmm. et donc pour faire et arriver l'appli aux gens, parce que nous sommes encore un petit bébé, et donc et on doit
un petit bébé à 1 million d'abonnés quand même, hein, à Christophe. On aurait aimé avoir des bébés comme ça, nous.
Un petit bébé, un petit peu.
Est-ce que vous avez essayé de contacter, par exemple, les ministères de la culture des pays arabes? J'en parlais de des pays comme Dubaï, les pays de Golfe, etc. Eux qui aimeraient bien peut-être. Pourquoi pas soutenir une application qui met en valeur le monde musulman, et puis vu qu'il y a une censure, vu qu'il y a un respect, donc ça va éviter qu'il y ait des débordements. Les débordements qu'on voit maintenant sur les réseaux sociaux, les vidéos, les voilà. choses un petit peu obscènes, la vulgarité, etc. Ouais. Et pour contrôler un peu plus. Est-ce que vous avez essayé de contacter justement
Pas encore, mais bien sûr, c'est un autre objectif de faire quelque chose avec les ministères et avec tous les pays arabes, événements ou bien sûr d'autres choses, oui.
Bravo.
On espère bien.
Donc, j'ai une question.
Pas vraiment de question, parce que je pense qu'Anna a fait bien son travail et effectivement on est au courant de tout de cette application que vous pouvez télécharger, on le rappelle, sur Apple Store ou sur Android. Donc sur vous tapez The Choukran, T-H-E
S-H-U K-R-A-N,
tout simplement The Choukran, et vous téléchargez, vous allez un petit peu vous familiariser un petit peu avec cette application qui ressemble, on l'a vu, entendu, à Instagram, et afin de découvrir une spécificité du monde arabe. On rappelle quand même le classement au Maroc, vous êtes combien, 7e?
Nous sommes
la 7e application la plus téléchargée.
Oui, 7e en Algérie, en Tunisie, et je pense dans le top 7, 10 en Égypte.
D'accord. Oui, donc, très prometteur. Très prometteur.
Christophe, je lui pose juste une dernière question.
Vas-y, rapide.
À la jeune fille très jeune, ambitieuse, qui a créé une application maintenant qui est reconnue partout dans le monde arabe. À 30 ans, tu as créé ton application. Et qu'est-ce que tu as à dire aux autres jeunes qui passionnés, qui ont des rêves et des objectifs, etc.
Je peux lui dire que voilà, rien est impossible. On doit toujours créer dans ses rêves et être très travailler bien, être toujours constant. Voilà.
Être constant. Voilà.
Ça c'est bien. Ça. En tout cas, on vous souhaite bonne chance et bon courage. Merci beaucoup.
Le Grand Forum vous présente chaque lundi à 17h les rendez-vous d'Anna.
Ma chère Anna, on va changer de registre puisque tu reviens jeudi. Et on va parler d'une émission qui est actuellement d'ailleurs diffusée sur M6, Pékin Express.
Pékin Express, nous recevrons
l'un des finalistes,
Mehdi. Pékin Express, il a fait Pékin Express 2018 et 2019, il sera avec nous pour nous révéler des secrets.
Oui, on y compte bien. Ça c'est jeudi prochain à 17h. Merci Anna, merci Fatna et bon retour à Venise.
Merci.
Bien sûr, dans un instant, on parle avec Nasser Lajili de Gennevilliers, puisqu'il est candidat. Choukran, The Choukran.
Choukran,
Fatna, à bientôt.
Choukran à vous.
Au revoir. Merci d'être en direct sur votre radio France Maghreb 2 dans cette émission. Vraiment, on change de sujet sans aucun problème. Nous étions à Fontenay-sous-Bois. Nous étions avec le nouveau réseau social à découvrir. Ça s'appelle The Choukran, il y a quelques instants, avec Anna Guézard-Bocaz. Et nous partons cette fois-ci à Gennevilliers, les amis. France Maghreb 2, le grand forum spécial municipal 2020. L'entretien d'admission. Et pour ne rien vous cacher, c'est un ami qu'on reçoit aujourd'hui, un ami de la maison, puisque chroniqueur dans le LGF, mais aussi candidat tête de liste à Gennevilliers, monsieur Nasser Lajili. Bonjour mon Nasser.
Salut Christophe.
Je suis ravi de te recevoir.
Bah, c'est réciproque, je suis ravi d'être parmi vous.
Alors
parmi
Nasser vous. Lajili, outre le fait qu'on le connaisse dans le LGF, en tant que chroniqueur, il donne son avis, parfois tranché et tranchant. Qui est Nasser Lajili? Est-ce qu'il peut se présenter au grand public aujourd'hui?
Alors Nasser Lajili, c'est un père de famille de deux enfants. Ouh là là, lapsus révélateur.
Il a un troisième en route, on ne sait pas encore.
Non, mais il est doucement. Père de famille de deux enfants, marié. J'ai grandi à Gennevilliers. Je suis responsable de site en restauration et conseiller municipal depuis 2008 à Gennevilliers. Voilà.
C'est pas la première candidature.
C'est pas ma première, c'est la deuxième.
La deuxième.
Effectivement, moi j'ai été élu dans une majorité entre 2008 et 2014.
Oui.
Et j'ai quitté cette majorité parce que je ne me retrouvais plus dans les idées ou tout simplement dans la manière de faire de la politique. Et en 2014, j'ai décidé de présenter une liste face au maire sortant, mais pas un maire sortant parce que c'était une nouvelle tête de liste communiste. Et nous sommes arrivés deuxième, en deuxième position, la deuxième force politique de Gennevilliers.
Deuxième en 2014, absolument. Ça veut dire qu'on peut le faire en 2020.
Il n'y a pas de raison.
Bon, alors Nasser Lajili, candidat tête de liste sans étiquette?
Alors, sans étiquette, effectivement, une liste citoyenne soutenue, oui, bien évidemment, par, ouais, plusieurs organisations politiques, comme
telle
la France Insoumise,
oui,
ou le Parti de Gauche, oui, et Gennevilliers Écologique et Gennevilliers Citoyen.
Voilà. D'accord. Donc voilà, sans étiquette, mais soutenu par ces mouvements que vous venez de citer.
Tout à fait.
Nasser Lajili, il y a beaucoup de sujets, évidemment, qu'on va évoquer avec toi. On va se tutoyer parce qu'on va pas faire semblant.
Hein. Effectivement.
Nasser, en matière d'éducation, parce que c'est très important et ça revient, évidemment, chez beaucoup de candidats, on sait que ça, les problèmes des écoles, c'est un véritable enjeu aussi important pour nos enfants, pour l'avenir de nos enfants. Que proposes-tu pour justement les enfants de Gennevilliers? Quel type d'école souhaites-tu pour les enfants de Gennevilliers?
Alors, effectivement, aujourd'hui, on a beaucoup de parents qui se plaignent de la qualité de l'école publique.
Oui.
Et je suis favorable pour que l'école publique reste une école publique et qui soit au service de la population. Mais on doit bien évidemment l'améliorer à côté. Donc la ville peut développer aussi la réussite scolaire en mettant en place, exemple, de l'accompagnement à la scolarité gratuite. C'est ce qu'on propose, nous, dans notre programme, parce qu'on considère que la question éducative, elle ne doit pas avoir de prix.
D'accord.
Elle doit être mise au service de la population, que ça soit des parents qui soient riches ou moins riches, mais qui trouvent toute leur place dans l'éducation de leurs enfants.
Ouais.
On a mis aussi on va mettre en place l'école de la deuxième chance pour les personnes qui sont en échec scolaire et qui ont lâché, on va dire, le cursus scolaire sur Gennevilliers, ça veut dire des personnes qui ont malheureusement été soit virées de l'école et qui se retrouvent en plein milieu de l'année scolaire sans établissement. Et pour nous, il est important qu'il y ait une reprise en main de ces jeunes qui aujourd'hui peuvent se transformer en délinquants.
L'école de la seconde chance.
Exactement, c'est ouais. ce qu'on a appelé l'école de la deuxième chance, qui existe déjà dans plusieurs communes,
ouais.
mais il est important pour que nous, Gennevilliers, ville, soit autonome et qui prend en charge. Parce qu'il y a la ville qui met en place un budget qui est de 9000 euros, ce qui est complètement ridicule pour l'éducation de nos enfants. Et là, il était important pour nous de mettre en évidence cette proposition.
Par rapport aux cantines, parce que c'est peut-être d'ailleurs là aussi, Nasser, tu le sais, pour beaucoup de familles, peut-être le seul repas de la journée, il est important aussi qu'on mange bien à l'école.
Absolument. Alors, on propose des repas bio. Voilà.
Donc, à quelle hauteur?
À quelle hauteur
100%, 60%.
Oui, dire à 100%, ça va être compliqué.
Ouais.
Par contre, effectivement, à 50%, je pense que c'est faisable.
50%. Absolument. Dans un premier temps.
Absolument.
L'objectif étant 100%.
Exactement. C'est surtout de proposer, on va dire, une cantine de qualité et une cantine bio. Voilà. Et ça, c'est important. Il faut et c'est des choses qui se font dans plusieurs communes. Donc, je comprends pas pourquoi une ville comme Gennevilliers, qui est assez riche, hein, quand même, qui a un budget de 210 millions d'euros par an, ce qui est énorme. Parce que c'est un budget de 100 000 habitants et nous sommes que 46 000 habitants sur Gennevilliers.
D'accord, voilà. 46 000 habitants, 46 000. Je vais vous poser la question, comme ça c'est fait. Voilà. C'est un budget qui correspond, comme tu le dis, donc à une ville de 100 000 habitants.
Absolument.
Donc, cantine, par rapport aux consignes familiales, ou on peut envisager la cantine gratuite, comme alors, certains le font.
Alors, je ne vous cache pas que nous, on a proposé la gratuité de la cantine.
Ouais.
On peut se le permettre. On a fait une estimation de combien ça pourrait nous coûter, et ça nous coûterait, on va dire, à plus d'un million d'euros par an. Ce qui est faisable.
Alors vous y allez, franchement, cantine gratuite.
On peut, et c'est la proposition qu'on a faite. Donc on a
pour tout le monde ou pour une. Pour peut-être
toute,
une.
Alors, pour toute la population gennevilloise, il ne faut pas qu'il y ait une discrimination ou une personne qui soit complètement à l'extérieur de. Je veux dire, qui soit exclue de cette proposition.
Et ça peut être fait très vite, très rapidement, dès la rentrée prochaine, par exemple.
Non, je pense qu'il faudra peut-être aller 2 années, on va dire, pour que ça se mette en place.
Ouais.
Donc voilà.
Donc à terme, l'objectif, c'est la cantine gratuite pour tous les enfants de Gennevilliers.
Absolument.
D'accord. Quels sont les messages que tu reçois de la part de la population que tu rencontres? Parce que tu es sur le terrain, Nasser, on te voit, tu galopes partout. Dans ta ville.
Alors effectivement, nous, c'est surtout quand on est en campagne électorale qu'on constate aujourd'hui qu'il y a soit un mal-vivre, ou tout simplement, on entend et on a commencé à prendre les vraies difficultés que certains peuvent vivre. Effectivement, moi je suis pas dans une majorité, je suis dans l'opposition, donc je constate au quotidien, donc j'ai pas de souci pour marcher dehors et discuter avec la population. Donc c'est la campagne, elle se fait pendant les 6 ans, elle ne se fait pas que pendant une période. Et au-delà de la campagne électorale, je suis aussi engagé dans le monde associatif pour accompagner des personnes en difficulté.
Ouais.
Donc voilà, ça c'est important pour moi de le dire, parce que c'est ce qui est marrant, c'est qu'on voit beaucoup de candidats aujourd'hui qui se précipitent aux élections et qui se font découvrir 3 mois avant les élections. Et ça, c'est effectivement frustrant pour beaucoup. Mais parfois, certains Gennevillois et certains habitants tombent dans le piège et ils sont prêts à vendre tout pour que ces candidats soient réélus.
En matière de sécurité, c'est important là aussi.
Alors, oui, effectivement. Alors sur la question de la sécurité, moi j'ai une vision complètement différente que de celle de mes concurrents ou mes adversaires. Moi, je ne suis pas forcément favorable pour qu'il y ait une police municipale dans notre commune.
Ah oui?
Oui, je l'explique.
Y compris non armée.
Non armée, encore moins d'ailleurs.
Oui, non mais oui.
Je suis opposé à toute police municipale. Pourquoi? Parce que je considère que la question de la sécurité, c'est une question régalienne de l'État et elle doit être traitée correctement. Effectivement, on doit faire en sorte qu'il y ait une police de proximité et qu'elle doit être développée et faire une pression aussi au sein du préfet pour qu'on ait une police à l'image de la population. Je dis ça pourquoi? Parce que on a fait le constat et on a pu regarder. Il y a des études qui ont été faites pour voir la question de la sécurité sur Gennevilliers. Et on constate les villes voisines comme Villeneuve-la-Garenne, Asnières, Clichy ou Colombes. Ils sont dotés d'une police municipale et nous avons exactement le taux de délinquance que celle de Gennevilliers. Voilà. Et je considère que ça va nous porter ça va nous apporter, je veux dire, ça va nous nous coûter énormément d'argent, et cet argent on peut la développer dans la prévention, ouais, et dans la réussite scolaire de nos enfants.
Comment vous faites justement, comment tu vas faire Nasser pour lutter contre justement ces incivilités, alors, contre ces jeunes qui parfois se réunissent, qui peuvent faire du bruit, mm-hmm, parfois des agressions, des trafics de drogue aussi, alors, on, ça n'épargne pas Gennevilliers.
Effectivement, c'est Gennevilliers n'est pas épargné, et effectivement moi je considère qu'il faut qu'on mette des agents de tranquillité publique, c'est l'une des propositions qu'on fait, et d'ailleurs ça existe dans plusieurs communes, d'ailleurs la ville de Paris sont dotées d'agents de tranquillité publique qui travailleraient en relation avec le commissariat, les éducateurs spécialisés, les médiateurs, donc vraiment un travail collectif pour faire en sorte que ces questions-là soient traitées de la meilleure manière. Voilà, pour éviter toute difficulté à nos habitants et bien évidemment aux agents de la ville.
Donc vous l'avez entendu, Nasser Lajili, candidat à Gennevilliers. D'ailleurs, vous pouvez appeler si vous avez des questions à poser ou le faire sur le live Christophe Le Grand Forum 01 40 33 9000. Vous, peut-être habitant de Gennevilliers, c'est le moment de parler à votre candidat, Nasser Lajili. Est-ce que tu es rassuré, Nasser, d'avoir entendu le Premier ministre qui a rassuré tout le monde en disant l'élection aura bien lieu? Il y a juste quelques dispositifs à connaître pour un bon déroulement. Et est-ce que ça t'inquiète pas le fait que, d'après un dernier sondage qui est sorti aujourd'hui, 28% des Français hésiteraient à se rendre aux urnes pour aller voter en par peur de la contamination du coronavirus?
Alors oui, effectivement, je pense que... alors. Me rassurer, moi non, franchement ça m'est égal que ça se fasse ce dimanche ou dans deux semaines ou dans un mois, ça me dérange pas du tout. Effectivement, le plus important c'est de savoir si la population ne va pas être frappée par cette, on va dire, par ce virus qui peut toucher énormément de monde et surtout les personnes âgées. Donc effectivement, je pense qu'il faut prendre les précautions pour que les choses se fassent dans les meilleurs moyens.
Alors, le logement, cher Nasser Lajili, comment ça se comporte du côté de Gennevilliers? Est-ce qu'on respecte d'abord tout ce qui est logements sociaux? Et quelle est ta vision globale sur le logement à Gennevilliers? Comment bien se loger?
Alors oui, effectivement, déjà, c'est d'essayer d'éradiquer tous les logements indignes et insalubres.
Et il y en a?
Il y en a, bien évidemment.
Beaucoup ou pas? On a recensé, on a fait un recensement?
Alors effectivement, il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup qui ont été détruits, mais il faut continuer. Et c'est la continuité de ce travail. Je pense que c'est important de continuer et de faire en sorte que les habitants de Gennevilliers soient traités et soient logés dans les meilleures conditions.
D'accord.
Alors, on propose aussi la mise en place d'une commission d'attribution, de la transparence de commission d'attribution.
Ouais.
Donc, sélectionner des citoyens par tirage au sort pour qu'ils participent à cette commission d'attribution, parce qu'on considère que pour être le plus transparent, c'est important que la population y participe, ce qui n'existe pas aujourd'hui. On est une ville dans laquelle où elle respecte énormément le logement social. On a même, je considère, pour ma part, qu'on a beaucoup de logements sociaux, on a 66% de logements sociaux.
C'est pas un peu beaucoup ?
Oui, moi je considère qu'on est quand même, comment dire, on a beaucoup de logements sociaux.
Ouais.
Mais je considère qu'il faut pas trop en faire aussi, et il y a des gens qui...
trouver un juste milieu, quoi.
Absolument, de faire en sorte que chacun trouve sa place, et ce qui pourrait aussi développer la mixité sociale dans notre commune.
Voilà. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent, des gens comme Nasser Lajili, ce sont des listes communautaires ?
Oh. On aura toujours cette image de liste communautaire. On ne peut pas être plus français que ça. Et d'ailleurs, j'assume et je suis fier d'être issu d'un enfant d'immigré. Et mes parents se sont battus pour que je sois français. Et c'est pas aujourd'hui que je vais changer mes origines ou tout simplement mon prénom, parce que ça ne plaît pas à certaines personnes de ma ville, de ma commune, ou tout simplement en France, des gens qui essayent de déstabiliser ces listes citoyennes qui s'engagent et qui aiment leur ville pour que les choses changent.
En tout cas, Nasser Lajili se démarque, vous l'avez compris, cantine gratuite pour toute la population de Gennevilliers, pour les écoles. Alors pas tout de suite, il l'a dit, hein, d'ici deux ans. Suppression de la police municipale, elle existe déjà ou pas?
Alors, on a trois agents de police municipale, mais c'est pas forcément... Alors c'est des agents...
Qu'est-ce que tu feras des agents? Tu les vires?
Non, je les vire pas, parce que c'est pas mon objectif. L'objectif, c'est surtout peut-être de les transformer sur un autre service.
Une autre action.
Une autre action qui sera beaucoup plus bénéfique. Mais en même temps, ces agents de police municipale sont des agents qui sont là pour verbaliser ou sanctionner les personnes, les incivilités de la commune. Donc, ils n'ont pas forcément de titre de répression ou autre. Hein.
Oui.
Donc, c'est ce qui est proposé par le maire. Mais je considère qu'on pouvait utiliser d'autres termes que d'utiliser une police municipale.
Est-ce qu'il y a aussi une politique de maintien du petit commerçant du côté de Gennevilliers. Est-ce que vous êtes bien loti ou pas? Est-ce qu'il y a des choses à faire?
Alors, pour une ville comme Gennevilliers, on est très mal loti. Une ville aussi riche, une ville aussi belle, une ville aussi petite, qui est, parce que pour moi, je considère que Gennevilliers est une famille. Tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie. On a 8 quartiers. Et je considère que le commerce de proximité est tout à... Vraiment, c'est à revoir. On a malheureusement des commerces qui ne sont pas forcément de qualité. Donc, nous, notre objectif, et on le dit, c'est de développer des commerces de qualité. Bien sûr, c'est pas le maire qui va mettre en place les commerces. Donc, c'est... Mais par contre, c'est de favoriser les projets qui pourraient favoriser les qualités des commerces de proximité dans notre commune.
Tu parlais de 8 quartiers. Comment faire pour faire se cohabiter justement tous ces quartiers? Alors, peut-être des quartiers où il y a ce qu'on appelle des logements sociaux, des quartiers dits populaires et puis des quartiers peut-être un peu plus tranquilles, pavillonnaires. Est-ce que tout ça, ça peut bien marcher ensemble?
Alors oui, ça peut bien marcher. Après, effectivement, chaque quartier a son histoire et a sa manière de vivre. Ouais. Effectivement, parce qu'on a des quartiers où on a des immeubles de 12-13 étages et tu as d'autres quartiers qui ont 5 étages et qui et c'est d'ailleurs les nouveaux quartiers qui sont plus petits et plus agréables à vivre, effectivement. Je considère qu'il y a un vrai travail de fond qui pourrait se développer en faisant des fêtes de quartier, parce que aujourd'hui, ces fêtes de quartier n'existent plus et qui pourraient développer la relation humaine qu'on ne retrouve plus dans notre quartier sur Gennevilliers, qui a existé il y a très longtemps dans notre commune.
Toi qui aimes bien faire des footings, je le sais, tu es un grand sportif dans l'âme, Nasser. Un peu de nature, est-ce qu'il y en a assez? Il faut encore en créer, j'ai envie de dire, à Gennevilliers, ou pour l'instant, c'est plutôt bien comme ça?
Tu parles de quoi?
De la nature, de l'espace.
Effectivement, je suis sensible sur les questions écologiques et je considère qu'il est important effectivement de mettre en avant. Et la question écologique, elle se limite pas forcément sur des projets d'urbanisation, mais plutôt sur une éducation aussi éducative sur les questions écologiques. Nous, on a aussi proposé des plantations d'arbres fruitiers sur notre commune.
Oui.
Ce qui est intéressant, pourquoi? Parce que ce qui pourrait permettre à nos enfants, d'ailleurs, les saisons de ces fruits. Et en même temps, c'est aussi de faire profiter certaines populations à bénéficier de ces fruits. Voilà, comme les cerises, qu'aujourd'hui, moi je me rappelle quand j'étais jeune, j'escaladais l'école maternelle pour aller piquer des cerises en plein été. Donc voilà, ça c'est des trucs, c'est des souvenirs qu'on peut pas oublier. Et je considère qu'à Gennevilliers, il y a des endroits, il y a des espaces qu'on peut mener et qu'on peut mettre pour qu'on ait des arbres fruitiers.
Oui, les arbres fruitiers pour permettre donc aussi d'en faire profiter donc les enfants, bien entendu. Et puis ça redonne un peu de couleur.
Absolument.
De nature.
Alors,
Quelle sera ta première action si tu es élu maire le 22 mars prochain? Parce que ça m'étonnerait que ça se joue dimanche au premier tour, Nasser.
Oui, alors effectivement, c'est vrai que c'est une élection qui est assez...
Combien de candidats en tout?
Alors 6 candidats.
6 candidats.
6 candidats. Donc on a 3 candidats de droite.
Ouais.
3 candidats de gauche. Voilà.
Ça fait 6. Être à gauche.
Oui, alors on a des valeurs et des idées qui sont beaucoup plus à gauche qu'à droite, effectivement.
D'accord, donc les habitants de Gennevilliers auront le choix, bien sûr.
Effectivement, on est dans une campagne qui est assez rude, qui est assez intense. Effectivement, j'en ai fait une en 2014, elle n'était pas aussi intense. Et plus, je veux dire. Et là, on constate qu'il y a une population qui en attend de beaucoup de choses. Je pense que aussi c'est la société qui fait que, par le dégoût de la politique générale, les gens sont beaucoup plus attentifs et beaucoup plus... sévère sur les propositions qui vont être données dans notre commune. Donc voilà, ça effectivement.
Tu en as oublié ma question. Quelle sera ta première action, ta première urgence pour les habitants de Gennevilliers si tu accèdes au fauteuil de la mairie de Gennevilliers le 22 mars prochain?
Alors effectivement, nous, si demain on arrive au pouvoir, et ce sera notre objectif le 22 mars, il faudrait peut-être aussi établir un audit au sein de la ville pour voir où on en est dans tous les domaines, que ça soit dans l'organisme, les organismes associés et effectivement la ville, pour voir qu'est-ce qui se passe.
Il n'y a pas d'état des lieux pour l'instant de fait.
Alors il y a des états des lieux, mais elles sont toujours dans le sens de ceux qui sont dans cette majorité.
Ouais.
Donc voilà, là c'est vraiment faire un audit et de donner aussi l'état des lieux de ce qui se passe.
De la situation réelle.
De la situation réelle, effectivement. Mettre en place, comme je vous ai dit, la commission d'attribution et dans toute sa transparence en mettant des habitants de Gennevilliers dans cette commission, mettre en place et redéfinir les priorités du CIREC, la restauration scolaire, c'est ce qu'on disait,
ouais.
Donc renforcer la part bio dans les écoles.
Ouais.
Adopter la nouvelle charte de la vie démocratique locale, parce qu'aujourd'hui malheureusement la question démocratique, bon bah elle est, on nous sort des chartes, etc. Mais il y a rien qui est respecté. On sait très bien que c'est toujours les mêmes militants et qui sont plutôt communistes qui gèrent les comités de quartier et aucun budget réel qui donne la possibilité aux habitants de quartier de développer leurs projets. Donc effectivement ça c'est un vrai problème. Nous on a aussi redéfinir les agents municipaux à un nouveau projet d'administration pour adapter l'organisation des services et à la mise en œuvre de nos priorités. Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est effectivement, on a des services aujourd'hui qui ne savent plus réellement quels sont leurs projets, leur objectifs.
Oui.
Donc, effectivement, nous sommes là aussi pour que y ait une ligne de conduite, pour que chacun trouve sa place et que chacun se mette au travail avec la direction générale des services.
Nasser Lajili, quelle relation avec les cultes à Gennevilliers? Il y a, je crois, une synagogue, non?
Alors non, on n'a pas de synagogue.
Vous avez mosquées?
On a deux mosquées.
Deux mosquées?
Oui, on a, je crois, à peu près quatre églises, à peu près.
D'accord. Ouais. Est-ce que tu seras le maire qui, au moment des élections, va aller demander des voix dans ces lieux de culte ou pas du tout?
Alors, je m'oppose complètement à ça.
Ouais.
Effectivement, c'est une question qui est souvent ressortie.
Le fameux clientélisme.
Absolument. Donc, je l'ai vu parce qu'on considère. Je vois certains députés, certains ministres, certains maires aujourd'hui qui s'invitent dans les mosquées pour essayer de récupérer des voix de la communauté musulmane. Et très peu d'ailleurs qui viennent dans des églises parce que c'est beaucoup plus compliqué pour y accéder. Mais voilà, moi, je suis opposé. Qu'on se retrouve dans ces lieux de culte, qu'on soit invité à un repas d'iftar parce que voilà c'est le Ramadan et de discuter etc, pas de souci, mais pour en faire une tribune ça m'intéresse pas du tout. Voilà.
Nasser Lajili, justement, on peut éventuellement te reprocher parce que bon tu es de confession musulmane, tu t'en caches pas, de privilégier ta communauté. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça?
Non, là-dessus, on a vraiment une charte d'ailleurs de bonne conduite à l'intérieur, et c'est de faire en sorte que chacun soit traité de la même manière. Voilà.
Oui.
Il n'y a pas de communauté, il n'y a ni de préférence, etc.
Il n'y a pas de séparatisme islamiste comme le veut la traduit Emmanuel Macron.
Non, pas du tout.
Pas d'augmentation d'impôts de prévu?
Non.
Non?
Pour moi, non.
Parce
la ville est assez riche pour le gérer.
Pour pouvoir subvenir, absolument, évidemment.
Absolument.
Par comment et de quelle manière est concerné Gennevilliers par le Grand Paris? Est-ce qu'il y a de nouveaux métros? Est-ce qu'il y a de nouveaux transports qui vont arriver?
Oui. Normalement, on a une station qui est prévue sur Gennevilliers. C'est une station d'ailleurs. Mais je considérais que c'était important. Et d'ailleurs, c'est bien parce que c'est ce qui va développer aussi le côté de, on va dire, économique de notre ville. Et ce qui va développer aussi des emplois pour nos habitants.
Alors justement, en parlant d'emploi et d'économie, Nasser Lajili, comment faire pour que les entreprises s'installent et celles qui existent déjà restent, et développer l'emploi pour les habitants de Gennevilliers, à Gennevilliers en fait, pour qu'ils évitent de sortir ou d'aller travailler ailleurs?
Oui. Alors effectivement, Gennevilliers, nous avons 18% de chômage à Gennevilliers.
Oui.
Et effectivement, on a beaucoup d'entreprises, on a 45 000 emplois dans notre commune, ce qui est énorme. Et par contre, aujourd'hui, de dire que Gennevilliers, les entreprises qui sont installées à Gennevilliers, nous allons leur imposer des Gennevillois à travailler dans leurs entreprises, ça serait de mentir à la population. Ça ne peut pas se faire. La loi l'interdit. Par contre, nous allons développer un partenariat avec ces entreprises qui s'installent sur la ville ou qui sont tout simplement installées pour faire en sorte que des Gennevillois y participent, en mettant un projet en commun avec les entreprises et ces jeunes, en mettant en place une pépinière d'entreprises qui pourrait s'installer dans la commune, et un campus des métiers qui pourrait faire en sorte que ces jeunes diplômés, ou tout simplement, diplômés, qui pourraient accéder à ces entreprises, qui trouvent leur place. Voilà, effectivement, ça là-dessus, on a un vrai projet, et je pense que c'est à travers ces projets qu'on pourra développer de l'emploi.
Ma dernière question, elle est plus personnelle. Est-ce que si demain tu es élu maire de Gennevilliers, ce que je te souhaite, mon cher Nasser, est-ce que tu auras le temps encore de venir un peu au Grand Forum?
Oui, je le ferai,
ouais,
de temps en temps. Pas tout le temps, mais parce que je pense qu'il y a beaucoup de taf. Il y a énormément de travail à mettre en place.
Dernière chose, Nasser, avant de partir, et je te laisse une minute pour t'adresser aux électeurs de Gennevilliers qui nous écoutent ou qui pourront t'écouter au travers de cette vidéo en direct de live Facebook Christophe Legrand Forum. Pourquoi il faut voter le 15 mars prochain pour Nasser Lagili et la liste qui s'appelle d'ailleurs
Ensemble pour Gennevilliers.
Ensemble pour Gennevilliers, le bulletin qu'il faudra glisser dans l'urne. Pourquoi il faudra voter Ensemble pour Gennevilliers le 15 mars, Nasser Lagili, c'est à toi de jouer.
Alors, mes chères Gennevilloises et Gennevillois, effectivement, je suis candidat pour ces prochaines élections. Et nous sommes une ville qui a énormément de qualités humaines. Et nous avons une richesse. Qui est une population qui a des compétences et des qualités. Et je considère que nous devons prendre cette place et que Gennevilliers doit être au cœur de notre préoccupation. Les Gennevillois doivent avoir leur place au sein de notre commune. Il y a beaucoup à développer. Nous sommes une ville très riche, 210 millions d'euros par an, et c'est une ville qui est l'une des plus riches du 92, et nous avons la population l'une des plus pauvres du 92. Et effectivement, il y a la question du commerce, il y a la question de l'emploi, il y a toutes ces questions qui doivent être remises sur la table pour que chaque population, chaque habitant de Gennevilliers trouve sa place et que Gennevilliers soit redonné à nos habitants. On a une équipe aujourd'hui qui est mise en place et qui pourrait mettre des projets et des activités qui pourraient développer notre commune.
Merci mon Nasser et j'espère que les résultats seront bons dimanche prochain, donc premier tour Ensemble pour Gennevilliers avec Nasser Lagili, chroniqueur du LGF, vous l'avez entendu, même s'il est élu maire. Il viendra de temps en temps nous faire coucou, évidemment, avec toujours le même plaisir. Cette semaine et pour la dernière partie de l'émission sera consacrée au chroniqueur du LGF. Donc, aujourd'hui, c'était Nasser qui inaugurait. Demain, Dionor Excellent. Mercredi, Emmanuel Michael du côté de Saint-Gratien. Dionor, c'est à Villetaneuse. Jeudi, Philippe Bouriaki à Orly. Et vendredi, Sabrina Sebaï du côté de Ivry-sur-Seine. Merci à tous. Merci Nasser. À très vite.
Merci à toi, Christophe.
Yeah.